Nos santé mentale en lutte. Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie de votre chère émission Nos santé mentale en lutte. Eh bien, on se retrouve après avoir parlé de faire famille autrement, après avoir accueilli notre merveilleuse invitée de la Biblie queer, les lins, les lunes, les lynx. Eh bien, on va maintenant accueillir tous ces merveilleux témoignages que les copaines m'ont fait la joie de me transmettre, de me confier, pour nous parler de comment est-ce qu'elles font la révolution de l'amour et de la parentalité. Et on les écoute. Et c'est dès maintenant. Des bisous et à tout à l'heure.
Salut Clara, eh bien, je vais essayer de répondre succinctement à ta question fort intéressante mais très très vaste. Je ne sais pas si je suis une grande révolutionnaire de l'amour et de la parentalité. Pour autant, je navigue depuis longtemps hors des schémas conventionnels et des sentiers battus, ce qui n'a pas toujours été facile, mais ce qui est passionnant en même temps. Aujourd'hui, je me considère, je m'identifie comme femme, je suis lesbienne, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas en couple et je vis seule. Et pour autant, la question c'est quoi faire famille pour moi et la question de l'amour traverse mes jours et est une exploration constante. Je peux dire que là où j'en suis aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte que je vivais la rencontre avec souvent beaucoup d'insécurité et que j'ai envie j'ai envie et je m'attelle à réapprendre à ressentir, exprimer, assumer mes contours, mes limites, mes oui et mes non. Et que ça me demande de faire de nombreux allers-retours, parfois avec de longues périodes de repli, pour pouvoir trouver une certaine justesse qui est en mouvement dans ma manière de rencontrer l'autre. Et ça, pour moi, ça vient se frotter à toute forme de relation, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse, ou même des relations de travail, enfin toutes relations confondues. Et parce que je crois que la question de l'amour, c'est la question de l'ouverture, sur le monde, de l'ouverture à l'autre, et que cette ouverture, pour moi, c'est un muscle qui est parfois meurtri, qui a été meurtri et qui est mis à l'exercice et à rude épreuve à notre époque aussi, où on reçoit beaucoup d'informations teintées de peur ou qui peuvent nous faire ressentir de la peur ou de la colère. Et voilà. Et du coup, je crois que le fait d'essayer de remettre au centre de la lenteur des allers-retours et aussi certaines formes de déconstruction de la hiérarchisation des relations me permet d'entrevoir des rencontres plus sereines et teintées de plus de sentiments de liberté, de joie et de sécurité intérieure. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, ça peut paraître abstrait tout ce que je te dis. En tout cas, c'est là que j'en suis et je suis contente de pouvoir essayer de l'exprimer le plus clairement possible. Je te souhaite une très belle soirée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.
En fait, pour moi, la parentalité, c'était d'abord avant tout ne pas reproduire ce que mes parents avaient produit, quoi. En fait, j'aimais pas. Enfin, j'avais des parents assez dysfonctionnants et je voulais pas reproduire le mode d'éducation qu'ils m'ont donné. Et en fait, j'ai regardé un petit peu ailleurs. J'avais pas de modèle, quoi. En fait, j'avais pas de modèle et j'ai juste essayé de regarder un peu ailleurs ce qui se faisait et d'être attentive à eux, quoi. Voilà. Et effectivement, enfin, je pense que l'amour fait beaucoup aussi, quoi. Enfin, je les ai beaucoup. Enfin, je les aime toujours beaucoup, quoi, en fait. Voilà. Et c'est ce qui est peut-être ce qui m'a guidée aussi, je pense. Voilà. Gros bisous à toi et à bientôt. Ciao.
C'est peut-être aussi compliqué d'en parler parce que récemment, on m'a un petit peu des fois reposé ces questions-là et il y a eu des questionnements un peu de l'ordre de aussi est-ce que lorsque je me présente en tant que polyamoureux, polyamoureuse, je le fais pas par exemple juste pour des questions de dépossession, juste de barrière pour me protéger. C'est peut-être vrai, je sais pas. Après, en tout cas, clairement, ça y joue énormément. Après, chaque relation est excessivement différente et ce que je laisse place à une relation n'est pas forcément ce que je laisse place à une autre et chaque relation se fait avec. Et j'ai juste envie d'aller là où mon cœur me guide, en fait. J'ai aussi envie de ne blesser personne et qu'une relation convienne le mieux à toutes les personnes en question. Les questionnements, ils viennent aussi avec le fait d'avoir envie d'aller voir ailleurs. Et envie d'aller voir ailleurs, ça peut aller avec le fait qu'effectivement, ça va pas bien dans une relation de base, mais il n'y a pas du tout aussi que ce schéma-là. Des fois, il y a un feeling qui passe très bien avec une ou des personnes et on a aussi envie de laisser place à ce feeling-là. Et en fait, ce qui est aussi super chouette dans le polyamour, c'est qu'en fait, avec chaque personne, on est ultra différente. Et qu'en fait, tu te découvres à travers chaque relation, quoi. On en revient à ce que chaque relation se construit avec la personne d'en face ou les personnes en face. Et tu donnes jamais la même chose et c'est une partie de toi plus ou moins que tu livres ou que tu livres pas ou que tu te dévoiles ou que tu te découvres. Et il y a des trucs que j'ai trouvé du coup super beaux en fait dans ça, même dans l'apprentissage de soi-même. Puis au final aussi cette quête de vouloir relationner le plus sainement possible, que ce soit pour toutes les parties en fait. Mes questionnements aujourd'hui, ou vraiment quand je me présente en tant que personne polyamoureux, polyamoureuse, en tant que pansexuelle et également demisexuelle. Souvent, ça fait peut-être peur de placer des étiquettes. On m'a déjà questionné sur le fait de placer autant ces étiquettes ou pas. À la fois, elles m'aident, à la fois, elles ne m'aident pas. Mais je me suis jamais sentie aussi bien que depuis que j'ai placé ces termes-là et j'aime bien avancer ce vers quoi j'avance. Je me découvre, je découvre d'autres gens. J'ai vécu une relation de couple assez classique, hétéronormée. C'était, je dirais, ma première vraie expérience de couple. Dans laquelle je me retrouvais par endroit, et effectivement, peut-être pas dans d'autres, qui a duré environ 3 ans. Je dirais que j'ai commencé à développer aussi peut-être un peu d'autres facettes de ma personnalité. qu'il y avait deux autres personnes que j'aimais beaucoup côtoyer et que dans mes rêves ou des fois par des rapprochements ou genre de choses, je m'étais déjà imaginé embrasser ces autres personnes ou relationner avec elles. Ce qui, dans le schéma classique d'aujourd'hui, où normalement on doit fidélité et exclusivité avec la personne avec qui on est, bah, ne devrait pas être le cas, quoi. Donc je dirais que déjà j'avais déjà des premiers questionnements avec le fait d'aimer d'autres personnes en même temps que je relationnais avec une personne dès la première fois que ça m'est vraiment arrivé d'être en couple. Et je dirais qu'après, l'autre notion qui m'a beaucoup posé problème et qui a pris une part de plus en plus importante, c'est cette notion de possession, en fait. Je dirais qu'à la fin de cette première fois que j'ai considéré, entre guillemets, être en couple avec quelqu'un, au final aussi, ce qui a beaucoup fait que ça s'est arrêté, c'est qu'à la fin, je me sentais comme un oiseau en cage. Que j'avais eu la sensation de perdre totalement ma liberté. J'avais aussi envie de construire des projets pour moi et de pas me sentir possédée. Plus je me sentais possédée, plus je me sentais enfermée, quoi. Je dirais que à force de rencontrer d'autres personnes et même à vrai dire coucher avec d'autres personnes, j'ai découvert d'autres manières de faire, d'autres manières de vivre. Et ça m'a ouvert effectivement les yeux aussi un peu sur un autre monde et une autre manière de vivre que j'ai voulu expérimenter. Et de me laisser guider tout simplement là où l'amour allait me porter en fait. Bah, c'était assez loin du coup des préceptes de fidélité.
Coucou Clara, je t'enregistre ce message dans la nature. Bon, je vais essayer de formuler des phrases simples parce que je pars dans tous les sens dans ma tête et j'espère que ça va être clair. Je crois que... Bon, comment? J'ai réfléchi aux relations amoureuses et aux relations même d'amitié, enfin voilà, tous les types de relations que j'ai. Dans mes réflexions de vie, je suis arrivée au polyamour il y a quelques années. Et ça a solutionné, j'ai trouvé dans le polyamour un système que je trouve absolument génial, c'est de déjà d'un côté ne pas mettre sur les épaules de mon compagnon ou ma compagne tous les besoins affectifs que je peux avoir. C'est-à-dire, je crois que je trouve ça assez fou l'idée que nos partenaires de vie doivent être nos meilleurs amis, nos meilleurs amants, amantes, nos confidents, confidentes. Enfin, en fait, je trouve ça fou de leur demander autant. Je trouve que c'est beaucoup. Et moi, j'aimerais bien qu'on ne me demande pas autant ou que je sois pas la seule personne qui apporte ça à mon compagnon, en l'occurrence. Et du coup, en fait, le polyamour, je trouve que ça solutionne ce truc-là. C'est pas forcément, enfin, c'est même pas du tout plus simple que les relations de couple exclusifs. Mais parce que c'est quand même très complexe de gérer plusieurs relations amoureuses en parallèle, enfin en parallèle qui se croisent, mais voilà. Déjà, une relation c'est pas simple, mais alors là, putain, quand le truc fait se croiser plusieurs relations, c'est un bordel sans nom parfois. Il faut faire très attention. Mais comment? C'est aussi bête que je trouve ça fou de se dire. Qu'il faut choisir une seule personne et fermer la porte à toutes les autres, comme si d'un coup on pouvait plus avoir de désir, d'intérêt pour d'autres personnes. Et ça, je comprends pas comment c'est possible. Je vois bien dans les faits, on peut pas vivre avec cinq personnes différentes. Enfin, il y a un truc, un moment où il faut choisir un peu ses projets avec les personnes. Mais justement,
Moi, j'ai des projets différents avec les personnes qui m'entourent, en gros, et selon les relations. Et en fait, tout le monde a des projets différents avec les personnes qui nous entourent. On a des projets de vie, on veut vivre avec certaines, rigoler avec d'autres, se confier encore avec d'autres, partager de la proximité corporelle et du sexe avec d'autres encore. Et en fait, moi, j'aime bien ce nuancier très très large de types de relations qu'on peut avoir et qu'on peut souhaiter avec les personnes qui nous entourent. Et j'ai trouvé un système qui, moi, en tout cas, me convient. Je dis pas du tout que... Je pense qu'il y a plein de personnes qui sont faites pour l'exclusivité et je trouve ça très bien. Mais je suis aussi persuadée qu'il y a plein de personnes qui sont pas faites pour l'exclusivité. Et dans ce système-là, bah, voilà, quelque chose qui s'approche, un système qui s'approche du polyamour, je trouve que ça peut être une bonne solution. En tout cas, ça l'a été pour moi. Et après, bah, du coup, ça a quand même bien chamboulé. C'est quand même arrivé il y a moins de 10 ans dans ma vie et j'en ai 40. Donc c'est... J'ai vécu un peu de temps avant sans ce truc-là, plus ou moins. Et je vois ce que ça m'a apporté. Et après, je vois aussi que ça peut déteindre cette notion de ne pas mettre dans des cases, en fait, les relations. Je l'applique aussi, par ailleurs, dans d'autres domaines. C'est un peu ce truc d'avoir une nuance dans les relations. C'est pas genre amour ou amitié, par exemple. Mais entre les deux, il y a tellement de nuances différentes. De contact, en fait, de lien qu'on peut avoir avec les gens. Je dis un dernier truc, c'est que en gros, quand on sort un peu de la norme des relations qu'on a et des liens qu'on a avec les gens, notamment en amour et par exemple avec le polyamour dans mon cas, bah c'est pareil un peu dans la parentalité quand on veut changer un peu les choses. C'est-à-dire que moi, par rapport à ma fille, je vois à quel point c'est important qu'elle ait pas que deux référents parents, que ce soit pas que moi et son papa qui sommes les référents de vie, mais qu'elle soit entourée de d'autres personnes qui puissent être des modèles de d'autres façons de faire que nous. Je trouve ça vraiment super important et c'est aussi pour ça que j'avais choisi de vivre en habitat partagé, pour qu'elle puisse voir au quotidien d'autres modèles. Et aussi la difficulté avec toutes ces relations, avec toutes ces façons de vivre les relations différentes et qui ne sont pas classiques, c'est qu'il n'y a pas de modèle, on n'a pas de guide. Alors déjà, quand c'est dans le modèle classique, c'est galère. Mais alors là, on doit tout inventer. Et à la fois, c'est génial. Et à la fois, c'est un peu vertigineux, quoi. On n'a pas de... rien qui nous guide. Je t'embrasse et à bientôt. Ciao.
Oui, je suis à un âge où on a quand même très très peu de projets d'avenir. Et je reviens sur l'histoire, mon histoire. Mon épouse décédée il y a une quinzaine d'années, je l'ai connue, pas au sens biblique. Elle avait 12 ans. Et j'en avais 16, et une mobilette. C'était la sœur d'un ami, d'un camarade de collège. J'ai toujours eu des relations amicales, mais elle m'a dit beaucoup plus tard qu'elle avait décidé, ce serait lui ou je rentre dans les ordres. dans les années, fin des années 50, j'ai réalisé, c'était facile, qu'elle flippait pour moi. C'était un peu partagé. Mais j'ai toujours la lettre que je lui ai écrite à ce moment-là. J'ai pas fait mon service militaire. C'était quand même 26 mois. J'ai pas fini mes études. Et puis j'ai pas de fortune. Alors, pour les périodes du service militaire, on ne se doit rien. Et j'ai la lettre, je la gardais. À la fin de mon, enfin, quand mon service militaire s'est terminé, j'avoue que je me suis fait alpaguer. Mais c'était conscient et
consenti.
Montrer ça. Je suis veuf, j'ai pas d'alliance. J'en ai en réalité, j'en ai jamais porté. Mais ça, c'est la gourmette de
Daniel.
Et quand tu retournes,
Olivier, 9 avril 60.
C'est le jour où on a décidé d'être ensemble. Le reste, c'est simple formalité. Bon, on est passé par les fiançailles, on est passé par le mariage. Mais l'alliance, c'est ça. C'est cette date-là. Et c'était dans un petit restaurant qu'on connaissait à Versailles, où ça s'est décidé. Et le seul truc que j'ai raté avec Daniel sont les 50 ans de mariage. Si ma mémoire est bonne, on s'est arrêté à 48.
Ça me fait chaud au cœur, tous ces témoignages. Bon, bah, vraiment, merci beaucoup à toi, Laetitia, pour ta présence.
Avec plaisir, merci à toi.
Tous les invités aussi. Bon, je voulais vous rappeler qu'on a tout plein de ressources. On n'oublie pas, avec cette dernière émission, je pense à des ressources sur les violences familiales et dans le couple. Je pense à Violence Femmes Info, le 3919. Je pense aussi à Allo Enfance en Danger, le 119. Et puis, sur les LGBTQIA+ phobie, SOS homophobie ou encore accepter transphobie. C'est le 01 42 29 23 67. Et enfin, sur la parentalité, vous avez Allo Écoute Parents, le 06 01 18 40 36 ou encore Allo Parents en Crise ou Psy Santé Parents. Il y a aussi des assos hein, au niveau local, je pense au planning familial qu'on n'oublie pas, je pense au groupe d'échange entre personnes concernées par un trouble psychique, c'est proposé par l'Embarcadère et c'est tous les troisièmes mercredis du mois de 17h30 à 19h30 à la cantine populaire. Et puis on est le mois de fierté, vous l'aurez compris, alors on n'oublie pas la Pride.
Si vous avez loupé la Pride d'Aubenas le 7 juin dernier, et pour celles qui y étaient, merci encore, c'était le feu. On a eu l'honneur d'accueillir plus de 350 personnes pour la marche et des centaines de personnes pour la soirée. Mais vous pouvez vous rattraper puisqu'il reste la superbe Pride des copaines de Cré qui l'organise cette année à Die le 29 juin avec une soirée préalable à Cré le 28 juin. Et aussi un merveilleux programme pour tout le mois des fiertés. Donc je vous invite à aller regarder les informations sur la toile.
On invite vraiment toutes les personnes, les alliés, les personnes concernées à venir fêter l'amour de soi et des autres avec nous. Vraiment, je voulais dire merci à Sophie et Sylvain d'avoir cru en mon émission et de l'accueillir au sein de cette radio indé que j'adore, Fréquence 7. Merci à Clara d'avoir assuré la technique, pour les retours précieux que tu m'as fait aussi, pour ton investissement jusqu'au bout, alors que tu ne travailles même plus là. Oui, je te vois. Merci Clara d'être là et d'être toi. Merci aux personnes qui m'ont fait confiance pour venir se livrer dans cette émission, à toutes ces précieuses personnes invitées et si chères à mon cœur. Merci aux auditeurices pour vos petits mots, votre écoute essentielle et votre courage. Vous le savez maintenant, vous n'êtes pas seuls. Ensemble, on peut se sauver. Et c'est justement pour ne pas rompre ce joli lien qui s'est créé et parce que certaines m'ont demandé d'avoir un espace où échanger que j'ouvre un mail, une adresse mail qui s'appelle Ensemble pour se sauver er@gmail.com, ensemble pour se sauver @gmail.com, sur lequel le dialogue peut continuer. Je pourrais jouer d'intermédiaire pour vous envoyer des ressources si besoin. Donc voilà, de tout mon cœur, je vous dis merci et je vous aime. On va se quitter sur It's Okay to Cry de Sophie, parce que je voulais finir avec cette DJ, chanteuse et productrice écossaise de pop et d'électro, qui est malheureusement décédée en 2021 à la suite d'une chute brutale. C'était une de mes icônes trans artistes. Donc voilà, on s'écoute, c'est ok de pleurer, It's Okay to Cry. C'était Cal pour la dernière de nos santé mentales en lutte sur Fréquence 7. Des bisous, ciao ciao.
Scares you. All of the big occasions you might have missed. No, I accept you. And I don't even need to know your reasons. It's okay, it's okay, it's okay. I think you sometimes forget I would know you best.
Nos santé mentale en lutte.